RFI. Grand reportage.
La Chine peut-elle sortir de sa dépendance au charbon après avoir réduit ses émissions au premier semestre? La deuxième économie du monde est confrontée aux pénuries d'électricité. Dans un contexte de reprise mondiale, l'atelier du monde, comme on appelle la Chine, a dû relancer ses centrales, semant le doute sur les engagements climat de Pékin. Chine, le charbon, quoi qu'il en coûte, c'est un grand reportage de Stéphane Lagarde.
Fin d'après-midi à la gare de Shenyang, mais il fait déjà sombre comme en pleine nuit. Les néons de la capitale de la province du Liaoning, dans le nord de la Chine, rallument les visages fatigués qui sortent des bureaux. Quelques jours avant notre arrivée, les lumières avaient disparu, noir total, panne géante d'électricité. Depuis, le courant est revenu dans cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants. Y a-t-il encore des coupures de temps en temps? Nous posons la question à la vendeuse d'Anka à emporter.
Bon.
Oui, et il semble qu'on ait encore des pénuries d'électricité. Pas ici, mais nous avons des coupures d'électricité dans certaines régions. Par exemple, les producteurs de lait de soja ne nous ont pas envoyé de lait de soja à cause de ces pannes électriques. Les pannes se produisent généralement le matin et le courant revient après-midi.
Un courant alternatif, mais c'est déjà mieux, car à la veille de la fête nationale, le 1er octobre dernier, tout s'est éteint. Les images diffusées sur le réseau Sina Weibo restent gravées dans les mémoires. Pendant une journée, même les feux rouges se sont arrêtés, créant des kilomètres de bouchons. Les habitants ont été pris de court. Les autorités des trois provinces du Dongbei, le nord-est de la Chine, ont alors déclaré qu'elles devaient rationner l'électricité pour éviter de faire sauter tout le réseau. Dans les avenues froides de la zone économique de développement de Shenyang, le courant est revenu aujourd'hui. C'est à peu près normal, nous dit ce trentenaire qui sort de l'usine.
Il y a des coupures d'électricité ici, mais seulement dans certaines usines, pas dans les zones résidentielles. Certaines usines n'ont pas d'électricité pendant la journée et ne fonctionnent que la nuit. Enfin, ça c'était avant, car maintenant c'est redevenu à peu près normal. Quand c'est arrivé, il y avait ces coupures de courant le jour, donc on travaillait la nuit. Il y avait aussi des coupures d'électricité dans les zones résidentielles, mais c'était seulement avant la fête nationale. Certains quartiers ont été plongés dans le noir toute une journée. Et puis ça s'est arrêté parce que la Russie nous a donné de l'électricité. La Russie nous a aidés. C'est ce qu'ils ont dit à la télé.
Un coup de main de la Russie, disent-ils à la télé, peut-être. Mais le retour du courant, c'est d'abord le gouvernement qui a décidé de relancer la machine à carbone en déréglementant les tarifs de l'électricité. Car si les villes s'éteignent dans le nord, dans le sud, l'atelier du monde ralentit. Nous risquons la paralysie, disait alors Madame Chen, jointe à Dongguan, dans le sud-est du pays. Fin septembre, la patronne d'une petite usine de fabrication de meubles a reçu un avis des autorités lui demandant de travailler deux jours, puis de cesser la production cinq jours durant pour économiser l'électricité.
La plupart des parcs industriels de Dongguan ont imposé des restrictions d'électricité. Nous avons reçu un avis nous demandant d'ouvrir l'usine deux jours, puis de l'arrêter cinq jours. La zone industrielle où nous nous trouvons abrite de nombreuses entreprises et toutes sont totalement opposées à ces mesures de rationnement du courant. Parce que pour nous, ces coupures d'électricité signifient une augmentation du prix des matières premières. Nous ne pouvons pas fabriquer nos produits en temps voulu. Or, nous avons signé des contrats avec les clients. Si nous ne pouvons pas fournir les produits dans les délais prévus, nous avons des indemnités à payer. Pendant les cinq jours chômés, le courant est coupé de 8h du matin à minuit. Le mois dernier, nos ouvriers ont donc embauché le soir et travaillé de minuit à 7 heures du matin. Nos capacités de production s'en sont trouvées réduites. Les ouvriers sont plus efficaces pendant la journée, beaucoup moins pendant la nuit, ils ont sommeil. Et puis nous devons payer nos employés deux fois plus lorsqu'ils travaillent de nuit. C'est normal, mais ce sont des coûts supplémentaires pour les entreprises. Les autorités du parc industriel nous ont demandé de signer un contrat indiquant que nous devions respecter la règle des deux jours travaillés, cinq jours d'arrêt. Il y a 18 usines ici. Aucune ne veut signer ce contrat. S'il devient obligatoire, alors beaucoup songent à partir, car les entreprises qui ne sont pas dans les zones industrielles n'ont pas de coupure.
Des numéros lancés à la volée, il est midi. C'est l'heure où les scooters font peur à Pékin. Des nuées de livreurs se dépêchent de porter leur repas aux salariés. Numéro 42, des nouilles instantanées pour un bureau d'architecte. 23, un burger pour une boîte de com. 35, une pizza vegan pour les bureaux de Greenpeace. L'ONG a sorti un document l'été dernier saluant les progrès de la Chine en matière de réduction de la dépendance au charbon dans les six premiers mois de 2021. Li Danqing, chargé de la communication.
Nous avons constaté un ralentissement du développement de l'industrie du charbon au premier semestre de cette année. Il y a une forte réduction des nouvelles approbations des centrales au charbon. Elles ont diminué de près de 80% par rapport au premier semestre 2020. En même temps, il y a une crise énergétique. Il y a eu ces pénuries d'électricité. Le prix du charbon est très élevé. Les énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne dans le nord-est du pays, n'a pas été en mesure de produire l'énergie qu'on attendait. C'est un problème climatique. Or, le problème, c'est que le charbon émet beaucoup de dioxyde de carbone, ce qui aggrave la situation climatique. Mais quand les vents ne sont pas là pour faire fonctionner les éoliennes, les gens demandent plus de charbon pour sécuriser les approvisionnements. C'est un cercle vicieux.
Un cercle vicieux qui a tout mis par terre. La transition énergétique des six premiers mois de 2021 s'est faite dans la douleur. L'effort intense de réduction des émissions a provoqué une crise énergétique comme la Chine n'en avait pas connue depuis longtemps. Les éoliennes n'ont pas produit l'énergie attendue en raison d'un dérèglement du climat, le vent qui fout le camp dans le nord, des inondations dans la province charbonneuse du Shanxi.
Ça, c'est le train de la mine qui arrive. Moi, je n'y fais plus attention. Il passe tous les jours. En ce moment, il passe peut-être 8 à 10 fois par jour.
Le train de la houillère de Duerping a repris du service après les inondations début octobre dans le Shanxi. Pendant que le mari de la coiffeuse est au charbon, les ciseaux s'attaquent aux mèches rebelles des enfants de mineurs de ce village des montagnes du nord-est de la Chine. 60 ans que le sous-sol nourrit les hommes dans la région.
Un peu plus court ? Il n'y a plus que 10 000 personnes dans ce village. Et moi, ça fait 30 ans que je suis là. Dernièrement, ils ont reboisé les alentours. On dit que la mine va fermer dans quelques années, mais pour l'instant, les prix du charbon n'arrêtent pas d'augmenter. Les mineurs débutants sont bien payés. Certains perçoivent jusqu'à 1 350 euros.
Une mine qui redémarre après trois générations dans le charbon, la coiffeuse de Duerping aimerait pourtant que ça s'arrête. Pour son mari, c'est bientôt la quille.
Mon mari prend sa retraite dans 3 ans. Après 35 ans de métier. Alors pour nous, c'est déjà terminé cette histoire. Bon, la vie est pas mal ici, c'est une vie normale en tout cas. Et c'est bien mieux qu'il y a 20 ans quand nous vivions dans ces maisons plates là-bas dans la montagne. Maintenant, nous sommes dans des résidences à étages. Mais bon, je ne veux pas que mon fils devienne mineur comme son père. Les salaires ne sont pas mauvais, c'est mieux qu'il y a quelques années, quand le charbon était moins cher. Mais bon, ça se termine, je vous dis.
La vie dans le sous-sol se termine, mais pas pour tout le monde. Dans le nord de la Chine, le charbon fait toujours vivre des millions de foyers. Les houillères sont sacrées, dans le Shanxi, elles ont même leur musée.
Ce que vous voyez là, c'est un moteur produisant de l'électricité à partir du charbon. C'est la vapeur qui le fait tourner. Le charbon brûle pour chauffer l'eau. L'eau se transforme en vapeur d'eau et entraîne la turbine qui produit l'électricité.
Le charbon, source de 70% de l'électricité en Chine. Pour notre guide du musée du charbon de Taïwan, il faudra du temps avant que cela ne change.
Le charbon reste un pilier de l'économie. L'an passé, la Chine a contribué à 51% de la production mondiale de charbon, dont un quart vient d'ici. Alors bien sûr qu'à long terme, l'utilisation du charbon devra diminuer. Le Shanxi veut d'ailleurs diversifier ses industries. On peut prendre l'exemple de l'Allemagne qui sortira du charbon après 2035. Mais on ne va pas tout fermer sur un claquement de doigts. La Chine aura besoin de ses mines et de ses centrales encore quelques années. Aujourd'hui, 80 à 90% du charbon est utilisé pour produire de l'électricité et donc pour le chauffage l'hiver. À terme, il faudra utiliser davantage le charbon pour la chimie, par exemple.
Sortir progressivement du charbon, les hommes de Duerping connaissent la chanson. Des années que l'on répète que la mine ne durera pas éternellement. Ce mineur retraité a fait partie de l'équipe de minage, l'élite des chercheurs de houille. Il a déjà fait son deuil d'une vie passée ici, avec ses joies et ses malheurs.
Hélas, nous avons eu beaucoup d'accidents. Il y a eu 3 coups de grisou et 6 sont morts dans un autre accident. Le gaz a provoqué 3 explosions ici, et certains n'ont pas pu s'échapper. L'explosion la plus grave s'est produite en 1985. C'était le 20 février. 48 personnes sont mortes dans la mine. En fait, notre charbon part dans tout le pays. Il alimente notamment une centrale d'une province voisine. Mais ça ne va pas durer. Ils font l'électricité avec le vent, le soleil et de l'eau maintenant. Bientôt, il n'y aura plus de centrale à charbon. Mais bon, pour nous les vieux, ça ne change rien. On utilisait du charbon pour cuisiner, maintenant on a le gaz. Avant, on avait une grosse chaudière pour le chauffage. Elle vient d'être retirée.
Le passage au gaz. Nous avons repris la route, le train, plus exactement de longues heures de TGV direction le Rebai, la province qui entoure la capitale chinoise. Nous avons rendez-vous avec l'homme à la moto qui aide les habitants de son village à sortir du chauffage au charbon, interdit désormais et surveillé de près par la brigade anti-pollution, comme nous l'expliquent ces mécaniciens du comté de Yutian, les fermes de jade.
Il n'y a pas de charbon. Nous utilisons du gaz, le charbon pollue trop.
Et il y a des contrôles, ils surveillent comment ?
Avec des drones.
Il y a des patrouilles de drones.
Parfois il y a même des avions.
Et si les gens se font prendre ?
Il y a des amendes.
Je vérifie cette maison, le gaz ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas faire la cuisine. C'est réglé ? Le brûleur marche bien ? Ok.
Des drones pour dénicher ceux qui utilisent encore le charbon pour se chauffer et partout, l'arrivée des gazinières. En 2016, le premier ministre chinois Li Keqiang promettait que 3 millions de ménages dans le Rebai allaient passer du charbon à l'électricité ou au gaz l'année d'après. La transition énergétique domestique a permis à la capitale chinoise de redécouvrir le ciel bleu après des années de brouillard. Le charbon a-t-il pour autant disparu ? Pas complètement, nous dit ce paysan qui aide ses amis à installer leur cuisine.
Vous utilisez du charbon à la maison ?
Je ne brûle pas de charbon chez moi, mais je connais des gens qui le font. Maintenant, ce n'est pas encore la saison, donc ça ne se voit pas. Même si vous allez les voir, vous ne verrez rien. Il faut attendre qu'il fasse plus froid. En décembre et en janvier, il y en a qui utilisent le charbon. Là, c'est trop tôt. Nous n'utilisons que le gaz pour cuisiner.
Le Rebai n'a pas été inondé cette année et les maïs sont bien poussés. Dans les cours de ferme, des machines rudimentaires égrènent les épis. Des tuyaux gris, le gaz court sur les murs, mais les fermes traditionnelles aux poutres apparentes, pleines de couleurs, ont heureusement résisté à la modernité. Toujours pas de charbon ici?
Le gouvernement du comté a eu une réunion avec les villageois il y a quelques jours pour limiter l'utilisation du charbon. Tout ira bien si vous utilisez du charbon, ils viennent tous les ans.
Tout ira bien si la vieille ne met pas le feu à sa maison.
C'est ça. J'ai voulu vérifier l'installation du gaz chez une habitante du village l'autre jour, mais elle n'en voulait pas. Elle ne sait pas s'en servir. Mais elle sera obligée de l'installer. Si on l'attrape à brûler du charbon, ce sera son problème.
Avec les aides, le gaz est pratique et moins cher.
Et puis c'est propre. Ces 10 dernières années, nos maisons étaient sales avec le charbon. Bon, c'est vrai. Certains n'ont pas les moyens et ne peuvent pas se permettre d'utiliser du gaz. C'est bon marché d'utiliser du charbon. Donc, il brûle du charbon. En utilisant du gaz, vous devez utiliser au moins 100 mètres cubes par mois, voire 300 mètres cubes.
Si tu utilises le gaz comme charbon jour et nuit, alors 300 mètres cubes, c'est pas assez.
L'année dernière, le mètre cube, après les subventions, était à 2,66 yuan. Si vous utilisez plus de 100 mètres cubes de gaz, le gouvernement du comté vous accorde 50 yuan d'aide. Maintenant, le mètre cube est à environ 2,76 yuan.
Attention à ce que tu dis, ils enregistrent. Vous enregistrez ?
Je dis juste la vérité. Si vous brûlez plus de gaz, les autorités vous donnent des compensations. Certains peuvent se le permettre, mais pour d'autres, c'est encore trop cher. Alors, ils utilisent du charbon.
Difficile de sortir du charbon, même si les autorités répètent qu'elles tiendront leurs objectifs. Pic d'émissions en 2030, zéro carbone en 2060. Dans son discours à la COP 15, juste avant la COP 26, sur fond musical et d'images d'éoliennes et de panneaux solaires, le président chinois a promis de doubler la production d'énergie renouvelable d'ici à 2025. Est-ce suffisant pour sortir des énergies fossiles? Nous avons posé la question à Chris Nielsen, directeur exécutif du projet Chine Harvard sur l'énergie, l'économie et l'environnement, joint à Cambridge.
Vous avez dit remplacer le charbon?
Oui.
Eh bien écoutez, c'est la question à $1 million en fait. C'est ce que tout le monde veut savoir, c'est ce dont ils parlent cette semaine à Glasgow. La Chine a délocalisé une partie de sa production. Les Chinois ont des fermes solaires en Asie du Sud-Est et c'est un énorme avantage en termes de réduction des coûts de production. Et puis la Chine s'est engagée de manière extrêmement volontariste dans ce chantier de l'énergie solaire. Elle a construit des centrales solaires beaucoup plus rapidement que tout autre pays. La Chine bénéficie des avantages du gouvernement centralisé et de la planification qui peut décider d'un secteur solaire très fort. Après, il restera difficile pour la Chine de faire face au problème d'intégration de son réseau énergétique, alors qu'elle se dirige vers davantage d'énergies renouvelables comme l'éolien, le soleil ou l'hydraulique. Le système de production électrique doit être radicalement réformé, doit s'adapter. Et c'est un peu plus difficile en Chine qu'ailleurs, peut-être, qui ne bénéficie pas des mécanismes de marché pour gérer la production d'électricité. La Chine fait des efforts, il reste un long chemin à parcourir, mais elle est bien placée sur le plan mondial pour y parvenir. But still, China is in a very good global position.
On voulait terminer ce reportage par une note d'espoir. Pour que la Chine tienne les engagements de sa longue marche décarbonée, en plus du soleil et du vent, il faudra sortir de la dépendance au charbon, mais aussi d'un modèle de croissance tiré par les forêts de béton des promoteurs immobiliers. Chine, le charbon quoi qu'il en coûte, un grand reportage de Wang Shenquang et Stéphane Lagarde.